Les clés de la ville, une production Figaro Immobilier et Radio Immo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio et Next City. Présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Eh bien voilà, nous y sommes à la fin de l'année 2024. Au moment où je vous parle, cette émission est enregistrée. Nous, là, vous la regardez, c'est le 9 janvier. Nous sommes le 18 décembre, nous sommes à Besançon. On est ravis d'être avec vous. Et je vous propose, comme c'est l'usage pour chaque numéro avec mon ami Olivier Marin, de vous faire découvrir, voilà, d'une autre façon, d'une manière plus poétique, peut-être plus bucolique, le formidable territoire que nous avons dans notre pays, ici à Besançon, en Franche-Comté, avec bien évidemment mon complice, sans lequel je ne pourrais pas faire le tour de France.
Bien entendu.
Salut Olivier Marin.
Bonjour Sylvain. Très heureux au nom de Figaro avec vous, Radio Immo bien sûr, de poursuivre cette cinquième saison des Clés de la Ville depuis la ville de Besançon. Se plonger au cœur des territoires, mieux comprendre les attentes, les besoins, décrypter les enjeux de la ville, c'est aussi un grand plaisir avec toujours le même principe qui fonctionne et qui a fait ses preuves. On pose nos valises et on parle immobilier et logement bien sûr, mais aussi urbanisme, environnement, architecture, patrimoine. Et à travers notre émission, c'est l'occasion de montrer que la ville, elle bouge, elle se transforme. Il y a une identité, mais il y a aussi des nouvelles façons de vivre et d'habiter. C'est ce qu'on verra encore aujourd'hui à travers des reportages, des échanges et les témoignages en plateau de personnalités emblématiques, des acteurs de la fabrique de la ville qui vont venir ici nous en parler pour cette quatrième étape de cette saison 5 après Nantes. Après Poitiers, après Saint-Dizier, eh bien nous sommes donc à Besançon, reçus par notre grand témoin, que nous sommes très heureux d'avoir à nos côtés, Anne Vigneault, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup, maire de Besançon, présidente du Grand Besançon, et on va aborder avec vous, justement, on va mieux connaître cette ville de Besançon, et puis on va retrouver aussi, à travers les projets urbains, à travers l'habitat, le patrimoine, des partenaires qui vont se succéder ici sur le plateau. Chaque mois, nous avons un notaire du Conseil supérieur du notariat. Aujourd'hui, nous recevrons Maître Aude Duval de Fraville. Avec elle, on fera un tour d'horizon sur l'évolution des prix et des ventes immobilières à Besançon. Elle délivrera aussi des conseils pratiques. Pour la séquence La vie ensemble, on recevra Franck Attali, qui est directeur régional Next City, Rhône, Loire, Auvergne, Bourgogne et Franche-Comté, l'occasion d'évoquer l'activité du marché du neuf, des opérations en cours et à venir dans un contexte particulièrement compliqué. Ce sera l'occasion de voir qu'il existe aussi des solutions, heureusement, pour mener à bien des projets immobiliers dans le neuf. Et puis, la séquence bien mieux, nous retrouverons notre partenaire Elio pour aborder la rénovation énergétique. Pauline Courbet-Dubost, responsable des affaires publiques d'Elio, viendra nous éclairer sur les derniers dispositifs. Et puis, il y a pas mal de choses qui sont en attente au niveau du Parlement. Nous sommes effectivement, Sylvain le rappelait, le 18 décembre, des projets de loi en attente. Et puis, MaPrimeRénov, des interdictions de louer. Enfin, on va essayer vraiment d'y voir plus clair. On parlera de tout ça. En tout cas, voilà pour ce beau programme de cette dernière émission des Clés de la Ville de 2024.
On est vraiment très, très heureux d'être là. Et encore une fois, je vous renouvelle mes remerciements et merci, Anne Vigneault, d'être avec nous. Maire de Besançon, Grégoire, vous nous avez construit un superbe reportage.
Oui.
En plus, on a eu de la chance, il faisait beau.
Exactement. On est venu il y a 15 jours pour tourner quelques images de la ville de Besançon, voir un peu cet écosystème qu'on connaissait mal. Je dois vous l'avouer, on a été très surpris, très agréablement surpris en sortant de la gare parce qu'on sent que c'est une ville chargée d'histoire et une ville assez dynamique. Donc voilà, je suis ravi de vous proposer ces images.
En tout cas, la Franche-Comté, moi, ça me parle. Hein. Non, mais vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Vous le savez. Il y a 44 ans, quand je démarrais mon Tour de France, quand j'étais compagnon du devoir, mon premier maître d'apprentissage, il était franc-comtois. Et son nom de compagnon, c'était Franc-Comtois la Belle Parole. Qui aurait dit que 44 ans après, je serais à Besançon sur un plateau de radio, quoi. C'est comme quoi dans la vie, il y a beaucoup de choses. On va découvrir ces très très belles images. Jason, c'est à vous.
Bonjour à tous, bienvenue à Besançon, je suis ravi de vous accueillir dans la ville d'or à Bezac. Nous sommes sur les bords du Doubs, je suis ravi de vous accueillir dans cette ville chargé d'histoire, 2000 ans d'histoire ici qu'on va découvrir ensemble. On va étudier sa forme d'hier, sa forme d'aujourd'hui, sa forme de demain. Nous allons découvrir cette ville sous toutes ses formes et je vous emmène avec moi pour la visiter.
Bienvenue au cœur de la Franche-Comté, bienvenue à Besançon. Une ville surprenante qui s'étend dans une boucle naturelle formée par le Doubs et qui offre un site défensif exceptionnel exploité depuis des millénaires. Besançon, c'est une ville chargée d'histoire, à la triple influence germanique, italienne et française.
Monsieur Perret Gentil, merci beaucoup de nous recevoir à Besançon. Est-ce que on peut parler avec vous de l'origine de Besançon, pour savoir comment est-ce que la ville a évolué au fur et à mesure de l'histoire jusqu'à sa forme contemporaine d'aujourd'hui ?
Besançon, c'est une très ancienne ville. Les premières traces d'habitat, elles datent du néolithique. Mais son explosion, son âge d'or, commence avec l'occupation romaine. Quand les Romains arrivent, on a déjà un oppidum gaulois. Mais César, devant cet oppidum, il découvre un intérêt stratégique majeur. Il va venir y faire stationner ses troupes. Depuis Besançon, il va aller combattre les Germains dans la plaine d'Alsace. Bref, avec les Romains, Besançon connaît un premier âge d'or. Le début du Moyen-Âge, la fin de l'Antiquité, Besançon souffre un peu. On a un empereur romain qui a entendu parler des splendeurs de la ville, qui vient visiter l'endroit et qui est déçu. Besançon s'est recroquevillé au pied de sa colline sacrée qui deviendra la citadelle. Mais le second âge d'or de Besançon, c'est la Renaissance. On est ici dans la cour du palais Granvelle. Granvelle, c'est un enfant du pays, un juriste repéré par la cour d'Espagne, qui va accompagner le destin de Charles Quint, qui sera en son temps l'empereur le plus puissant d'Occident, un des hommes les plus puissants du monde. Dans la suite des Granvelles, la ville connaît des périodes de prospérité, puis une période un peu plus troublée avant de tomber dans l'escarcelle du royaume de France. Et c'est avec Louis XIV que le destin de Besançon va croiser le destin de la France. Louis XIV qui va assister au siège de Besançon, qui va revenir à Besançon une fois que Vauban aura bâti un de ses chefs-d'œuvre architecturaux, la citadelle. Une citadelle qui aura coûté tellement cher que le roi aurait demandé à Vauban « sont-elles en or ces murailles ?» tellement la facture était élevée.
Le 19e siècle marque l'essor industriel de la ville, notamment grâce à l'horlogerie. Aidé par sa proximité avec la Suisse voisine, Besançon devient la capitale française de la montre, attirant artisans et ouvriers qualifiés.
Après 19e siècle, c'est la période de la révolution industrielle et de la Suisse voisine. Il y a des savoir-faire qui percolent, et notamment les savoir-faire horlogers. Et Besançon devient un des berceaux, le berceau de l'horlogerie française.
Aujourd'hui, Besançon conjugue harmonieusement son riche passé et son dynamisme contemporain. Ses nombreux parcs et jardins, ses festivals et sa vie étudiante animée en font une ville où il fait bon vivre, tout en préservant un patrimoine exceptionnel qui raconte plus de 2000 ans d'histoire.
Alors, c'est le problème de Besançon, c'est pas que Besançon ait une mauvaise image, c'est que Besançon n'a pas d'image. Alors si Besançon ne va pas connaître un destin aussi brillant que d'autres grandes villes, en tout cas, elle va réussir à traverser ces crises. Et c'est cette résilience qui fait que Besançon est encore aujourd'hui une ville attractive, diversifiée, qui a su conserver un dynamisme à travers son industrie et ses savoir-faire qui continuent de marquer sa mémoire.
Voilà, notre visite de Besançon touche à sa fin. Je suis ravi de vous avoir fait découvrir cette ville, une ville qui allie culture et aventure.
Et encore une fois, bienvenue à Besançon.
Eh bien...
Bravo Grégoire.
Bravo Grégoire, très très jolies images. Alors justement, on brûle de savoir ce que Anne Vignon en a pensé.
Eh bien écoutez, ça relate bien l'histoire de la ville de Besançon. C'est un mélange de patrimoine, comme on le voit, historique, et un mélange d'un autre patrimoine, celui de la nature. Vous avez vu que dans la ville, il y a la rivière, dans la ville, il y a les collines. Et c'est ce qui fait tout son charme et aussi tout son potentiel. On ne dit peut-être pas assez la proximité avec la Suisse. Et ça participe bien sûr à nos dynamismes parce que nous sommes en relation directe dans un monde de l'industrialisation, puisque nous avons une force industrielle importante sur la Franche-Comté et que l'ex-capitale de Besançon en est un élément extrêmement dynamique et fort. Et vous avez vu que les commerces sont nombreux, importants, vivants, ce qui est quand même quelque chose d'exceptionnel en France. Nous avons une vitalité forte et nous avons surtout ce que nous avons peut-être moins entendu et vu, c'est l'importance de la vie étudiante. Nous avons une ville campus, puisque une personne sur cinq est un étudiant à Besançon.
Combien d'administrés sur la ville de Besançon ?
Sur la ville de Besançon, c'est à peu près 120 000 habitants. Et sur le Grand Besançon, qui est un territoire qui va aller plus vers une forme de ruralité, ce sont 200 000 habitants.
Et donc environ quoi, 20 000 étudiants ?
Ah oui, 25 000
étudiants. 25 000 étudiants, c'est énorme.
Oui.
C'est vraiment une ville jeune, donc une ville dynamique, une ville animée.
Et oui, parce que quand vous avez la jeunesse, vous avez la vitalité, vous avez le renouvellement, vous avez la force aussi pour les nouvelles entreprises. Et donc ça, c'est essentiel et on le maintient, évidemment.
Et juste un petit mot, le magazine L'Étudiant, justement, je regardais ça, a dressé la liste des meilleures villes étudiantines de France, fondée sur 13 indicateurs et Besançon arrive en 6e position, ex aequo avec Strasbourg et Lyon, 6e sur un total de 47 agglomérations. Besançon, qui est régulièrement cité pour sa qualité de vie, son offre culturelle, ses initiatives en faveur des étudiants et son cadre de vie, effectivement.
C'est la force, bien sûr, des enseignements, de la recherche qui est très fortement installée sur Besançon. Mais nous avons aussi une offre culturelle et une offre sportive qui marque aussi ce territoire. Il y a un foisonnement culturel, en particulier, entre autres, la musique, toutes les formes de musique, mais aussi toutes les formes de sport et en particulier le sport nature.
Merci en tout cas de vous prêter au jeu des questions. Donc on va rentrer dans le vif du sujet puisque ça s'appelle les clés de la ville. On est très orienté sur la fabrique de la ville et l'urbanisme, bien évidemment. Je vais vous poser une question sur le renouvellement urbain, notamment dans le cadre d'actions de cœur de ville sur le quartier de Planoise, qui se réinvente, une opération qui est programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain. Besançon, on voit que ça bouge, hein, c'est dynamique. C'est quoi vos grands objectifs en matière de renouvellement urbain? La vacance, les adaptations de logement aux familles, l'amélioration du fonctionnement des espaces communs, la qualité des logements, le côté climatique exactement, qui est aussi une de vos préoccupations.
Alors, j'ai hérité d'un programme qui est celui de renouvellement urbain sur un des grands quartiers de Besançon. Hein. C'est pratiquement 20 000 personnes qui sont concernées. C'est un quartier qui avait besoin effectivement de repenser la façon d'habiter, donc la qualité des logements. La qualité des espaces publics, elle est là, mais on a une vie sociale qui s'était dégradée, donc il est important de mettre en place tout un ensemble d'actions qui permettent non seulement de réorganiser la mixité sociale, mais bien sûr aussi, il ne suffit pas de dire mixité, il faut accompagner. Et donc nous sommes sur un projet qui consiste à démontrer qu'un quartier prioritaire qui a été construit dans les années 60 est en fait un éco-quartier, et que les éco-quartiers ne sont pas des quartiers qui sont destinés aux bobos, mais ils sont destinés à tout le monde, parce que le beau, il est fait pour tout le monde.
Là, c'est presque une citation philosophique. Le beau est aussi un élément du bien, c'est Nietzsche qui l'avait dit. Merci de le dire, j'aime beaucoup. Olivier Marin.
Oui, on parlait d'offres culturelles et aussi de besoins d'identité, de marqueurs. Il y a quelque chose de très, très fort hein, qui va donner beaucoup d'ampleur, c'est la grande bibliothèque qui prend forme à Besançon, qui va jouer un rôle centrale d'animation culturelle. Donc là, on est quartier Saint-Jacques, future grande bibliothèque qui doit ouvrir au public en 2028, c'est ce qui est prévu, 15 000 m², 1 500 places, 660 000 livres et documents pour étudier, apprendre, travailler, se divertir dans les meilleures conditions. Un équipement ultra moderne qui doit offrir un niveau de service très élevé. C'est un projet qui est porté par Grand Besançon Métropole et l'Université de Franche-Comté. Il deviendra également un pôle d'attractivité du centre-ville à deux pas du campus, Lettres et Sciences Humaines qui rassemble 4 500 étudiants. C'est un projet architectural très ambitieux qui n'a jamais été conduit auparavant et qui va allier, en tout cas c'est la promesse, qualité architecturale, exigence environnementale, une grande bibliothèque qui doit regrouper à la fois une bibliothèque publique, une bibliothèque de conservation et une bibliothèque universitaire. C'est inédit en France, j'imagine que c'est une grande fierté.
C'est une grande fierté, c'est un grand défi. Parce que effectivement, elle s'inscrit cette bibliothèque au cœur d'un quartier qui va complètement se renouveler. C'était le quartier de la santé puisque c'était le quartier de l'hôpital Saint-Jacques ancien. Et l'enjeu, c'est d'en faire un quartier qui va être un cœur de territoire, pas seulement le cœur de la ville de Besançon, un cœur de territoire. C'est faire territoire. Ça veut dire que toutes les communes, bien sûr, du Grand Besançon, mais bien plus loin encore, vont pouvoir apporter à l'ensemble de la population un accès à la lecture sous toutes ses formes. Bien sûr, des centaines de milliers d'ouvrages, mais aussi des ouvrages historiques. Nous avons la chance d'avoir la conservation d'ouvrages qui viennent depuis le 9e siècle. Nous avons aussi l'avantage d'avoir un développement numérique extrêmement important. Je suis très fière ici d'avoir aussi des laboratoires de recherche qui travaillent non seulement sur la façon dont on transmet, on permet l'acquisition de la connaissance du savoir socle pour nos enfants, avec une maison universitaire qui s'occupe d'éducation, et comment faire en sorte que tout le monde puisse accéder très vite, très tôt, et quelles que soient les catégories socio-professionnelles, à la lecture, bien sûr, à l'acquisition de la connaissance, mais aussi donc les universitaires, les étudiants qui vont pouvoir bénéficier d'un endroit où ils peuvent se poser, s'installer, pas seulement être dans une posture d'un travail, mais bien celui de l'épanouissement. Donc c'est tout un univers qui est ouvert à tout un public. Et pour nous, c'est un défi, encore une fois, parce qu'il va être connecté avec le numérique, avec l'entreprise du numérique, en particulier une entreprise, celle dont on ne parle pas assez encore, celle de l'optique, celle qui est capable de transmettre évidemment de la donnée très rapidement. Et donc cette bibliothèque sera ultra connectée, et ça c'est une volonté, parce que nous avons besoin aujourd'hui non seulement de s'ouvrir aux nouvelles technologies, que dire de l'IA, ouais, mais que dire de nos livres, et comment faire côtoyer nos livres les plus anciens, les actuels, et comment travailler la façon de traiter la donnée et de se l'approprier et d'en faire non seulement une émancipation, mais bien sûr un pouvoir, mais un pouvoir maîtrisé.
C'est tout à fait l'objectif. D'ailleurs, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce projet, c'est la conjugaison de la tradition et de la modernité. Ça, ouais. C'est-à-dire qu'il y a une alliance assez objective qui ne trahit pas le cadre, j'allais dire presque charnel, de l'approche du livre, ce côté très tactile, qu'aucune application ne remplacera. D'ailleurs, aucune application ne remplacera une bonne poignée de main entre deux êtres humains. Pour démystifier un peu le mythe qu'on a autour de l'IA, etc., où on deviendra des ersatz d'êtres humains. Non, je crois qu'il ne crois pas. J'y crois pas une seconde. Mais oui, non. Mais on fantasme beaucoup là-dessus, tu le sais, hein, sur un gros sujet. Donc j'aime beaucoup cette alliance. Il y a une question auquel aussi vous êtes très attaché, Madame la maire, c'est la transition écologique, bien évidemment. En même temps, vous êtes un peu écolo.
Tout à fait.
Voilà. Donc, je ne pouvais pas résister à cette question. Et d'ailleurs, il n'y a plus de débat, hein, pour être très clair. On est tous conscients au niveau de la masse critique. Fut une époque, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce fameux Duchemin avec un col roulé qui faisait les... Alors, c'est vrai que moi, j'ai l'âge d'avoir connu cette époque. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le public, dans les années 70, on avait toujours quelqu'un qui se présentait aux élections présidentielles et qui alertait sur le climat. Il avait toujours un col roulé.
Bah, c'était Dumont.
Dumont. Le fameux Dumont est extraordinaire.
Alors, l'élection présidentielle de 74.
Il faisait rire à l'époque, parce qu'il y en a qui le prenaient un peu pour un. Et il était prophétique. Comme Aaron Taziev l'a été dans les années 80 sur le réchauffement climatique. Vous avez misé sur la capacité à gérer les sols qui multiplient les actions en faveur de la transition écologique. En quelques mots, c'est-à-dire que vous êtes en train d'essayer de réinviter la nature en ville. En fait, on débitume, on débétonne, bien évidemment. Et alors, il y a des alliances qui ne sont pas faciles à gérer, hein, des équations, parfois, ou même des injonctions contradictoires, parce que il y a une démographie qui est là, hein, faut occuper le sol parce qu'il faut loger les gens, il faut qu'il y ait du commerce, il faut qu'il y ait du trafic, effectivement, et de la circulation. Comment vous le définissez? Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre projet, votre vision, très concrètement?
Eh bien, déjà, dans un premier temps, ce que je défends, c'est évidemment l'humain et le vivant, parce qu'ils sont intimement liés, ils sont même organiquement associés. Et donc, quand on met les deux, on met les priorités de la même façon pour la dimension sociale au sens très large du terme et pour la biodiversité et le vivant. À partir de là, quand vous pensez la mise en place d'un urbanisme nouveau ou d'une construction, à ce moment-là, vous pensez d'un point de vue habitat. C'est-à-dire que les gens vont vivre ici, mais s'ils y vivent bien, c'est parce que, en fait, on aura démontré qu'on aura aussi accueilli l'autre vivant, celui qui est de la biodiversité. Et quand on rend compatibles les deux, forcément derrière, il y a de la qualité de vie, il y a de la haute qualité de vie à Besançon. Et c'est ça l'enjeu, c'est de démontrer que, en fait, quand nous travaillons sur les sols, quand nous travaillons sur l'accueil, par exemple, d'oiseaux dans les toitures, etc., c'est que nous travaillons sur une nouvelle façon de penser la construction. Et ça, c'est fondamental. C'est que vous changez les paradigmes. Vous pensez aux températures, mais vous pensez aussi à l'environnement, y compris l'environnement sonore. Toutes les analyses sociologiques montrent que quand vous êtes dans un bon environnement, vous allez bien. Et en 2025, soi-disant, on devrait peut-être voir arriver une politique qui consistera à travailler sur la question de la santé mentale, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on a une société qui va mal, et les individus vont mal.
Bien sûr.
Donc, c'est urgent de proposer un urbanisme qui soit bénéfique à la santé et à la santé mentale, à toutes les santés. Donc, non seulement des pollutions habituelles qu'on a l'habitude d'entendre, mais aussi d'autres pollutions. Et surtout, un lien social. Donc, il faut changer radicalement la façon de penser l'espace public aussi. L'espace public, c'est un endroit où on vit ensemble, on se croise, on se rencontre. Ce n'est pas seulement un endroit qui permet la mobilité, et encore, c'était essentiellement la mobilité de la voiture. C'est là où on peut envisager toutes les mobilités. Mais simplement un exemple, place de la Révolution, la place principale de la ville de Besançon, quand on la désimperméabilise, on met des arbres, soit. Donc on baisse la température, tout va très bien, tout le monde sait le faire désormais. J'en suis contente que tout le monde ait suivi ça. Mais associé à ça, on y met des bancs, un environnement, et là, la place se transforme en un lieu où les gens s'installent. À peine les bancs sont-ils posés, que les gens s'y installent. Donc ça veut dire que non seulement on pense l'habitat à l'intérieur, c'est-à-dire dans ce que les gens vont vivre dans leur intimité, en particulier, par exemple, la question des températures, la question des énergies, est-ce que habiter là, ça va leur coûter très cher? Donc ça, c'est une question aussi. Mais aussi, quand ils sortent de leur habitat intime, quand ils passent dans l'espace public, il faut qu'ils restent dans ce confort. Et un des deux autres conforts, c'est bien sûr l'accessibilité. Nous sommes sur une ville qui doit aller sur l'inclusion et sur le travail qui concerne les vulnérabilités dans lesquelles l'être humain peut se trouver. Simplement une chose, c'est que nous avons comme chance aussi d'avoir ici un institut des vulnérabilités qui s'installe, parce que dans la vie, dans le parcours résidentiel, nous avons à toutes les étapes de notre vie des besoins différents en matière d'habitat, mais aussi d'environnement, pour que, alors que nous vivons de plus en plus vieux, que nous vivons de plus en plus vieux et bien et en bonne santé. Donc là, l'urbanisme, c'est une réponse essentielle pour pouvoir répondre à ces enjeux.
Moi, je souscris, comme vous nous l'expliquez de cette façon-là, on ne peut pas dire non, ça. Je veux dire, c'est pas possible. Néanmoins, permettez-moi, la vitalité du cœur de ville est aussi animée par l'artère fémorale de le cœur de ville qui s'appelle le commerce, les commerçants. Vous le savez que ce qui anime les quartiers, ce qui enrichit les quartiers, parler des étudiants, c'est les bars, les terrasses, bien évidemment. Ça peut être les bouchers, les charcutiers, etc. Alors, je ne fais pas d'allusion à Bonnet. Hein. Mais quand même, aujourd'hui, quand on a posé avec Olivier, c'est normal, on est un peu journaliste, on a posé la question aux commerçants qui se disent c'est très dur, c'est très difficile, on peut plus circuler, on n'a plus d'accès, les clients désertent nos magasins, et je ne vous parle pas de la restauration qui souffre. Ma question est la suivante, c'est on ne peut que souscrire à ce que vous dites, et vous avez fondamentalement raison. Et j'ajouterais même le côté marqueur social de l'habitat qui détermine finalement les projets de vie. Et selon là où on est, où on vit, va être déterminant pour la suite. Et je pense que la France a ceci de fort d'essayer de mixité, de travailler cette mixité. Mais comment on fait pour qu'il y ait un modèle économique qui existe ? Alors, est-ce qu'il n'y a pas des concessions parfois un peu à faire, Madame la maire, pour laisser coexister finalement un commerce de proximité qui a besoin de travailler ? Et dont on le voit, mais ça vous le savez déjà, qui a du mal aujourd'hui à trouver des équilibres économiques pour pouvoir retrouver une vitalité. Mais c'est une discussion. Hein.
C'est une discussion, et comme je suis quelqu'un qui vient du monde scientifique, j'aime bien les choses très factuelles. Oui. J'aimerais savoir sur quelle statistique vous annoncez ce que vous avez annoncé. Laissez-moi aller jusqu'au bout, s'il vous plaît. Nous avons un centre-ville qui a vu renouveler après le Covid l'ensemble de la restauration avec une montée en gamme des restaurants et avec une très belle résistance, alors que partout en France c'est extrêmement compliqué, d'un centre commercial avec une vacance une des plus basses de France, je tiens quand même à le dire, dans les strates moyennes que nous représentons de villes de plus de 100 000 habitants. Donc ça, c'est la première chose. Donc moi, je veux bien parler mais sur des données chiffrées. La deuxième chose, nous avons un centre-ville qui a bénéficié dès 1974 d'une transformation majeure, c'est-à-dire de proposer une piétonnisation. À l'époque, les commerçants ont dit que c'était la fin du centre-ville, que c'était la fin des commerces. Aujourd'hui, alors que nous modifions le périmètre et que nous augmentons ce périmètre, pour faire en sorte que nous n'ayons plus des drives dans un certain nombre de territoires, parce que si on m'explique dans un certain nombre de quartiers, si on m'explique que le drive serait un facteur d'attractivité d'un quartier, je ne vous crois pas. C'est qu'à cet endroit-là...
Ce n'était pas le sens de ma question.
Non,
hein.
Mais c'est ce que c'est, je décris les quartiers dont vous parlez. Parce que les quartiers dont vous parlez, ce sont des quartiers qui rentrent dans un nouveau périmètre, où il y a une régulation de la circulation et qui n'interdit pas d'abord l'accès, premièrement, et deuxièmement, qui amène un apaisement parce que nous avions des véhicules qui circulaient à 70-80 à l'heure parfois dans un quartier qui est un quartier historique médiéval, entre autres. Donc, nous sommes dans un apaisement et pour vous dire une réalité, puisque vous parlez d'indices et d'indicateurs, c'est que les commerçants qui, au départ, se sont dit que peut-être ça dégraderait leur activité, ont demandé l'installation de terrasses pour pouvoir augmenter leur capacité, parce que, justement, ils ont pu bénéficier de cet apaisement. Donc, 1974-2024, nous sommes sur une crise, chaque fois qu'on change quelque chose, une crise des commerçants qui, je le comprends, se questionnent à savoir s'ils vont avoir leur modèle économique qui va se transformer. Nous n'avons jamais eu autant de monde dans nos marchés de Noël, dans nos samedis piétons, dans nos activités commerciales sur la ville de Besançon. Jamais.
Donc pour résumer...
Vous dites, oui, la perception, elle est d'un côté...
C'est peut-être... Ouais.
J'ai besoin de statistiques.
Madame la maire, justement, on n'a pas de statistiques. On a simplement, effectivement, posé quelques questions comme ça au hasard et on a relevé quelques informations. L'idée, c'était de vous poser la question. C'est une question réelle qui touche aussi les autres agglomérations, les autres villes de France. C'est comment joindre, si vous voulez, c'est votre modèle auquel on croit tous. Et je pense que c'est la ville du 21e siècle, pour être très clair. Et je pense qu'il n'y aura pas de débat. Il y a trop d'enjeux de santé publique, et vous avez raison de le dire, et je suis très content que vous l'ayez dit, pour que ce soit pris à la légère. Alors là, pour le coup, il n'y a pas de souci. C'est juste comment on fait quand on est politique pour essayer de trouver le juste compromis. Vous voyez ce que je veux dire ?
On écoute, ça ne veut pas dire qu'on est toujours complètement d'accord, on écoute. Simplement, ce que je dis, c'est qu'à chaque fois que j'ai modifié, justement en particulier un espace public, j'ai eu une montée de mécontentement malgré le fait qu'on ait pu aller voir les gens, expliquer, etc.
Même si en amont, c'était c'est prévu, normal. Il y a eu de l'échange. Et
c'est
tout
normal,
ça,
nous ouais. sommes des humains, on a besoin, on est un peu grégaire, on,
pas
a
changer
un peu,
les habitudes.
Voilà, on a un besoin un petit peu de stabilité. Et là, aujourd'hui, la question, c'est comment est-ce que le client va réagir.
C'est ça. Voilà.
Et donc, le client, il lui faut aussi son temps d'adaptation. Alors, si on continue à crier que parce qu'il y a un quartier, un seul quartier, hein, parce que tout le reste n'a pas bougé, hein, un quartier se trouve avec une régulation plus forte, si on crie partout que c'est plus possible de venir sur Besançon, ça ne va pas aider. On va se dire les choses en faisant... Aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'avec en particulier les fêtes de fin d'année, les gens sont venus à nouveau dans notre ville, à nouveau dans le sens, à nouveau dans la fin de l'année. Ils ont constaté qu'ils posaient leur véhicule là où ils pouvaient le faire. Ils ont constaté qu'il y avait d'autres alternatives, qu'il y avait possibilité aussi de se déplacer autrement. On est en train de travailler les autres mobilités.
Le vélo, comme le vélo, par exemple.
Par exemple. Mmh. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que en 1974, c'est la nationale qui est passée à travers une ville historique. Vous avez vu la ville, comment
incroyable,
elle est faite.
Bien sûr. Incroyable. Non, c'est incroyable.
C'était juste non, pas pensable.
Ben, c'est même, j'allais dire, je ne sais pas ce qu'ils avaient dans la tête à l'époque, les urbanistes, mais franchement... Mais,
et les commerçants croyaient qu'on allait les tuer. Aujourd'hui,
c'est fou, hein.
On a une population qui a envie de se déplacer autrement. Donc la question dans un lieu aussi historique, c'est comment on laisse la place à tout le monde. Donc l'enjeu, c'est la juste place. Juste place. D'accord. Nous sommes une des villes qui avons le plus de places de parking, de stationnement dans toutes les villes de la même strate, avec en particulier massivement des parkings qui sont gratuits. Donc, quand on reprend des éléments chiffrés, avec en plus une proximité, nous avons un centre-ville qui est très... C'est sa beauté. On est dans le cœur de collines et de rivières. À partir de là, il y a quelque chose qui se resserre. Donc, oui... Quand on veut desserrer un peu la place par rapport à la voiture, on n'enlève pas la voiture, on pousse un peu les lignes, et là, ça devient plus complexe. Mais acceptons la complexité. Acceptons que l'avenir est dans la complexité.
Madame la maire, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que c'est exactement ce que nous entendons avec votre autre collègue. Encore une fois, c'est la règle politique. Trouver les compromis, les ajustements, vous êtes d'accord là-dessus. Bien évidemment, on voit le cas avec Paris, on voit que les villes aujourd'hui sont en ZFE de plus en plus, et que c'est une très bonne chose en réalité. En réalité, c'est une très bonne chose. Mais en même temps, il y a aussi une démographie, il y a une activité économique. Et je pense qu'être élu local, c'est vraiment, vraiment pas ça. Le sens de la question, c'était vraiment de comment on trouve les ajustements.
Est-ce que je peux vous dire
entre la perception et ce que vous dites qui est tout à fait réel, oui. Et la perception, ça doit être parfois frustrant quand on est un élu, en se disant, bah, mais je bosse, j'essaie d'améliorer, et la perception qu'ont le public parfois n'est pas à la hauteur de l'ambition que vous avez pour eux.
Oui, mais ça, moi je dis toujours aussi...
Mais c'est une règle politique.
C'est voilà. Une règle politique, quelle que soit la couleur politique.
Mais quelle que soit la couleur politique, hein, oui.
Et je ne connais pas un élu qui ait envie de faire sombrer son centre-ville.
Je n'en connais pas, déjà,
la première chose. Et la deuxième chose...
Vous avez raison de le rappeler, c'est important ce que vous dites. Hein.
Oui.
Vous ne voulez pas la mort des commerçants,
mais ça n'existe
ni de qui
pas.
Que ce soit. Non,
ça
n'existe
pas
vous avez
si
raison.
On n'est pas élu.
Mais vous avez raison. Non, mais vous avez
et,
raison
et l'autre chose, c'est qu'on ne peut pas prendre une position sur le principe de n'entendre que celui qui crie très fort.
Oui. Exactement.
Donc comment est-ce que vous allez chercher la parole de ceux qui ne crient pas, qui sont dans une autre approche, etc. Et ça, c'est ce qui nous anime ici à Besançon, c'est comment trouver les secteurs, les méthodes pour aller rencontrer les personnes qui ont envie de changer la ville, qui ont envie de la rendre dynamique. Et je le répète, aujourd'hui, la ville de Besançon, elle est à la hauteur maximum de ce qu'on peut voir dans un centre-ville. Vous avez évoqué tout à l'heure Monsieur Bonnet, par exemple, que personne ne connaît en France. Mais une chose est certaine, c'est que Monsieur Bonnet...
C'était là une charcuterie exceptionnelle.
Oui, mais on parle d'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, moi je veux bien, mais je vous parle d'aujourd'hui, moi. À quoi il est
c'était
confronté
anecdotique.
À quoi, non mais ça fait rien, c'est important, c'est symptomatique. À quoi il est confronté dans le monde des traiteurs, de la boucherie, etc. Il est confronté au problème du recrutement. Donc, il y a un moment donné, et il ne sait plus faire... dans son recrutement et en particulier dans la façon dont on travaille. Donc, il a 60 ans et M. Bonnet, avec qui j'ai énormément de très bonnes relations parce que nous avons travaillé tout le temps avec eux, il a décidé de changer son activité. Il n'a pas fermé son activité, oui, il a changé d'activité. Mais on a un problème de recrutement dans ces métiers.
Surtout dans ces métiers-là. Ouais. Merci. Olivier Marin.
On va poursuivre justement sur la transition écologique et revenir là vraiment sur le cœur de Besançon. Donc on sait que c'est aussi réaliser des économies durables, réduire ses factures, vivre dans un environnement qui soit plus sain et plus confortable. Et à Besançon, vous vous mobilisez, notamment isolation de la toiture, les murs, changement de système de chauffage. Grand Besançon qui propose un dispositif d'aide financière complémentaire au dispositif MaPrimeRénov, parcours accompagné, MaPrimeRénov copropriété, pour entreprendre des travaux de rénovation énergétique de son logement. Nouvelle version du dispositif Pamela, rien à voir avec Dallas, hein. Pamela prime à l'amélioration énergétique des logements anciens. Toutes ces actions, est-ce qu'elles rencontrent le succès escompté? Est-ce qu'il n'y a pas du climato-scepticisme en ce moment? Est-ce qu'il y a pas
c'est
une
bon ça, Pamela, vous avez un directeur marketing qui est exceptionnel. Hein.
Alors déjà, premièrement, il n'y a pas de climato-scepticisme. Une question, c'est à savoir à quel moment je décide d'investir, oui. Parce que ce sont des investissements qui ne sont pas anodins.
C'est clair.
Et suivant si vous êtes particulier, individuel, ou si vous êtes dans le collectif, rien n'est simple. Et surtout, les aides, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est qu'on a quand même une panoplie d'aides. Et donc, l'idée, c'est plutôt d'essayer de rendre plus simple l'accès à la connaissance, au savoir, pour savoir quelle aide auquel j'ai accès, et aussi quel choix aussi de mode constructif auquel je peux être confrontée. Et puis, on va se dire aussi une chose, par exemple, au centre-ville de Besançon, on a un enjeu, c'est que, bien sûr, les familles continuent à vivre en ville ou centre-ville, mais ce sont évidemment des monuments qui sont suivis parce que nous sommes dans un PSMV, c'est-à-dire que nous avons l'obligation de la sauvegarde du patrimoine à l'extérieur comme à l'intérieur. Donc vous imaginez là encore une grande complexité et notre rôle, les collectifs, les collectivités, en particulier les maires ou les intercommunalités, c'est de rendre le plus facile l'accès à la compréhension des dispositifs.
Simplifier
franchement,
au maximum.
Honnêtement, c'est mettre les habitants dans des situations extrêmement complexes. Donc notre enjeu, notre obligation, c'est de rendre plus facile l'accès à ces connaissances. Oui.
Et on l'évoquera tout à l'heure quand on fera la séquence sur la rénovation énergétique. Oui, pour que Besançon soit à la pointe de nombreux défis, vous avez déclaré que ça suppose une mue urbaine profonde et innovante. L'objectif, donc, reconstruire la ville sur la ville, s'adapter aux défis de la sobriété et des transitions et répondre aux besoins des habitants tout en préservant les spécificités locales. Et au total, ce sont près de 4000 logements neufs ou réhabilités qui doivent être livrés dans les 10 ans qui viennent. Où en êtes-vous? Y a-t-il des freins? Et si oui, comment on peut relancer la machine?
Alors, plusieurs choses. On a ouvert des projets urbains publics, hein, donc, qui sont pilotés par nous, comme jamais, depuis 30 ans sur la ville de Besançon. Mmh. Et ce que nous avons privilégié, c'est les renouvellements urbains, par exemple, là où il y avait eu des bâtiments qui ont été déconstruits, évidemment, mais aussi, comme ce qu'on disait tout à l'heure, Saint-Jacques, un lieu historique que nous avons racheté pour le transformer en cœur d'habitat, cette fois. Donc ça, c'est la première chose. C'est un investissement extrêmement lourd. On a besoin donc d'opérateurs importants avec nous. Et ensuite, il y a tout un travail sur la conception de ces nouveaux quartiers qui doivent... L'enjeu, c'est d'éviter qu'aujourd'hui, dans toutes les villes de France... Quand les gens ont des enfants, ils partent vivre à la campagne quand elle n'est pas trop loin. Et c'est le cas pour des villes moyennes comme Besançon.
Il faut retenir les familles.
Sûr. Il faut que notre centre-ville, nos villes, notre quartier, nos quartiers soient désirables sans forcément, et là, c'est là où c'est le plus compliqué, sans forcément être obligatoirement dans la maison individuelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de maison individuelle, mais ça veut dire qu'il faut rendre désirable un autre habitat. Et ça, c'est un enjeu que nous ne pourrons pas faire tout seuls, nous, les politiques. Nous avons besoin que les promoteurs se réinventent aussi, non seulement dans leur forme urbaine, mais aussi dans le coût à la sortie. Et ça, c'est des enjeux extrêmement forts. Parce que qu'est-ce qu'on demande aujourd'hui ? On demande d'avoir un nouveau type d'habitat avec des éléments extérieurs. Le Covid a mis tout le monde à l'épreuve. On a besoin de ces éléments extérieurs dans notre habitat. On a besoin de se poser la question des matériaux qu'on utilise. On a besoin de savoir si ce qu'on va construire aujourd'hui, c'est destiné à tout le monde et donc à quel prix. Et donc, à un moment, on a une crise économique, on a une crise des prêts, avec des taux qui reviennent
ça va un petit peu mieux, ça
mais,
un petit peu
mais on ne sait pas même, combien bon. De temps, ouais. Hein, puisque
oui.
Voilà.
Oui, pour l'instant, il y a eu un retour un peu à la baisse. Ouais. Mais
donc c'est un travail, je ne vous cache pas, que je discute de façon extrêmement serrée avec les promoteurs
on pour en parler justement.
Envisager cet avenir. Ouais,
voilà. Transition.
Il y a une chose qu'on ne peut pas vous enlever, Anne Vigneault, c'est la passion qui vous anime. Et ben, je vais vous dire, c'est rafraîchissant.
Eh bien, merci.
Vraiment, merci pour ça. Justement, vous parlez des promoteurs. On va parler des promoteurs avec la prochaine séquence, les amis. Nous allons recevoir groupe Nexity. Vous savez, le groupe Nexity, c'est le leader du logement abordable en France. Nous allons recevoir dans quelques instants Franck Attali, qui est directeur régional. On parlera du territoire de Besançon. On vous posera clairement la question de savoir est-ce qu'on construit, est-ce qu'on construit mieux. Et en fait, poser les équations, comme tu l'as rappelé d'ailleurs, Olivier, les difficultés que vit aujourd'hui, les difficultés graves que vit aujourd'hui la construction de logements neufs dont on a réellement besoin. C'est tout de suite après.
Les clés de la ville, la vie ensemble avec Nexity.
Nos amis de Nexity, bonjour Franck Attali.
Bonjour.
Comment ça va ?
Très bien.
Je suis heureux que vous soyez avec nous. On est dans un écrin magnifique, ouais, ici. Très très bien ici, au Cursal ici, à Besançon, en compagnie de la maire de Besançon, Anne Vigneault. Merci de nous accueillir. Et bien sûr, Olivier Marin qui est avec moi. Alors justement, on va prendre les choses, on va dire, très concrètement et très directement. On parle vrai. La dynamique du marché immobilier à Besançon, j'aimerais que vous nous décriviez. Alors, première chose, c'est est-ce qu'on construit à Besançon ? Quelle est la capacité du territoire ? Je voudrais qu'on fasse un panel un peu général et je vous demanderai, après, pour ceux et celles qui nous écoutent, d'avoir des points très précis. Je sais que vous avez travaillé sur quelques programmes un peu iconiques, même totémiques, et on va en parler tout à l'heure, notamment sur les modes constructifs. Le marché, alors.
Alors, on est dans un marché aujourd'hui en France qui est assez morose, hein, donc ça, on ne peut pas se le cacher. Néanmoins, comme on l'a dit tout à l'heure, Besançon, c'est une ville où il fait bon vivre. Il y a une attractivité économique, il y a de l'enseignement, il y a un pôle santé, donc il y a un besoin de logement. Donc nous, aujourd'hui, chez Nexity, on cherche des projets à développer sur la ville de Besançon et sur sa métropole à travers nos différents produits qui peuvent être soit de l'aménagement de terrain à bâtir, même si ce n'est pas un produit que madame la maire privilégie, mais néanmoins, tout Français aujourd'hui rêve d'avoir une maison individuelle. Mais on sait aussi faire des produits collectifs, plutôt en centre-ville, avec des nouveaux modes de construction qui permettent d'être bas carbone, ce qui est notre volonté aujourd'hui, tout en ayant un coût bas pour nos accédants à la propriété.
C'est vrai qu'il y a un travail de fond à faire, vous avez raison, hein, Franck, de le dire. Madame la maire, 87% des Français dans les récents sondages ont plébisciter l'accès à la propriété et l'accès à la maison libérée, on peut le comprendre, avec les communs, vous avez du vert, de l'air et de l'espace. L'espace est un vrai luxe, bien évidemment. On peut aussi produire de la maison individuelle de façon plus intelligente, en restreignant peut-être un peu l'espace, mais l'avenir est aussi, bien évidemment, également au logement collectif. Franck, bien évidemment. Alors justement, est-ce qu'on continue de produire du logement ?
Alors, on continue à en produire. Hein. La métropole de Besançon et Territoire 25 ont des grosses zones d'aménagement. Madame la maire en a parlé. Saint-Jacques, Crête-Bullard.
De très belles opérations qui vont sortir. Hein.
Tout à fait. Ouais. Ou encore l'éco-quartier Vauban, qui sont des opérations emblématiques de la ville de Besançon. Donc, nous, Nexity, nous avons sorti plusieurs opérations ces dernières années, notamment une qui s'appelait Next, qui était 80 logements en construction bois.
Ça, c'est génial, ouais. C'est super.
C'est bas carbone.
Oui.
C'est de l'actualité, on va dire. Oui. Sauf qu'on était un petit peu en avance sur notre temps à l'époque. Donc, c'est une opération qu'on a livrée, qui était à un prix abordable pour les accédants à la propriété et qui était en avance sur son temps.
Question, justement, Madame la maire. Quand vous voyez des modes constructifs innovants, avec un faible impact environnemental, faible impact, une empreinte carbone très maîtrisée, ça doit aussi, quelque part, vous rassurer dans l'évolution, justement, de l'urbain. Quand vous voyez, par exemple, la filière bois qui s'organise.
Oui, tout à fait. On en est très fiers, très heureux de voir que, effectivement, tout le monde a pensé que c'était une obligation et qu'en fait, on pouvait la mettre en application parce que ça ne peut plus être du domaine de l'utopie et du rêve. Il faut qu'on passe de l'utopie à la réalité, et c'est ce qui se passe, et j'en suis très heureuse que l'ensemble de nos promoteurs viennent nous rencontrer. Et donc Nexity, effectivement, a été en avance sur ces modes constructifs. Aujourd'hui, la question qui se pose à nous, ce sont les coûts.
Oui, c'est un vrai sujet. Alors, il y a aussi une autre opération que vous avez menée, c'est celle des 7 collines avec la résidence senior. Oui. Ça aussi, c'est un des aspects d'immobilier opéré que vous mettez en œuvre chez Nexity. Dites-nous en plus, justement.
C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais aujourd'hui, il faut aussi loger nos seniors. Et à travers...
C'est l'enjeu. Oui.
Voilà, tout à fait. Donc, Nexity a développé avec Égide Domitis un concept de résidence senior. Et donc, on a construit une résidence de 128 logements sur la ville de Besançon qui a ouvert maintenant il y a 4 ans.
J'aime beaucoup. Alors pourquoi ça s'appelle cette colline?
Ah, c'est.
Parce que moi, quand vous me dites cette colline, je pense à Rome. Ça ne peut pas exister.
Je pense que Madame le maire va pouvoir répondre, mais on peut considérer que sur Besançon, on a ces 7 collines.
Madame la maire, la géographe que vous êtes, je crois que vous êtes géographe de formation.
Oui. Je ne vais pas faire de la géographie là, parce que sinon je vais venir sur la définition du mot colline. Mais c'est vrai qu'il y a un mythe qui est celui de parler de la ville des 7 collines. Voilà, ça pose le cadre, en tout cas, de l'environnement et de la nature. C'est ça qui est important. Je voudrais juste revenir sur la question du parcours résidentiel. Ce que je vous disais tout à l'heure en matière de vulnérabilité, il est vrai qu'on a besoin de repenser aussi l'ensemble de l'habitat, la façon dont on veut habiter. Et on a besoin de repenser aussi non seulement du mode constructif du bâtiment, mais aussi la question du logement à l'intérieur, avec des surfaces qui ne sont plus les mêmes. Et ça, c'est important. Et nous avons fait quelque chose d'innovant sur Besançon. Nous avons consulté les habitants sur un quartier Grès-Brûlard pour savoir s'ils pouvaient attendre des constructions que nous leur proposerions. Et ils ont répondu à une plateforme et ils ont exprimé très, très vite des questions d'accessibilité, quel que soit leur âge. C'est ça qui était intéressant. Et de toute façon, dans tous nos parcours, dans tous nos quartiers, nous souhaitons proposer les parcours résidentiels différents. Quand vous êtes jeune, vous avez besoin d'un petit appartement. Quand vous êtes divorcé, vous avez besoin d'une étape, peut-être un petit appartement. Quand vous êtes une famille qui se recompose, qui est en alternance, eh bien, vous avez besoin d'un appartement plus large, etc. Donc, et quand vous vieillissez, vous avez besoin aussi d'espaces encore différents. Et comment est-ce qu'on peut anticiper avoir des logements qui, dès le départ, permettent peut-être une modularité ou en tout cas que dans un même quartier, il puisse y avoir les mêmes offres parce que les gens aiment retrouver leur environnement de départ. Et encore une fois, on a besoin de savoir poser les questions. Et là, on a voulu inverser les rôles. C'est-à-dire que c'est les habitants qui se projettent dans ce quartier qui disent aux promoteurs: nous aimerions que vous nous proposiez une gamme, une typologie de logement de telle façon, alors que d'habitude, ce sont les promoteurs qui proposent une typologie.
Très intéressant.
Franck. Avec un triple objectif, hein, on le voit, c'est aussi les nouveaux métiers, c'est de produire des logements qui soient écologiquement responsables, socialement inclusifs,
et abordables.
Économiquement abordables. Donc il y a vraiment les trois notions.
Le sujet du prix est un vrai sujet.
Est-ce que d'ailleurs, Madame la maire, vous avez une charte sur la construction et le logement ici à Besançon, parce qu'on le voit dans certaines villes que nous traversons ou pas?
Alors, dans la façon dont on construit, ou notre AMI, ou enfin nos différents dispositifs pour en discuter avec nos promoteurs, oui, bien sûr,
vous
nous mettons des exigences. La hauteur de plafond, par exemple, la surface vitrée aussi, parce que pendant très longtemps, on a produit des logements avec des ouvertures très petites pour essayer de limiter les coûts, mais en même temps, on sait combien on a besoin de respirer, de voir à l'extérieur, etc.
On l'a vu avec le Covid.
Donc, ça, c'est plus pour encourager les bonnes pratiques.
Les matériaux aussi, bien sûr, l'exigence au niveau du bilan carbone, on va se dire les choses.
Alors, Franck, justement, vous buvez les paroles de la mer, parce que vous étiez déjà pionnier chez Nexity en la matière.
Alors oui, on a été un peu pionnier, dans la conception de nos logements, puisque aujourd'hui, on a une clientèle qui évolue, hein, avec le dispositif Pinel qui, qui prend fin au 31 décembre. Aujourd'hui, on conçoit des logements pour les accédants à la propriété et pour que les gens y habitent. Donc c'est vrai qu'on est très attentif à la qualité de nos bâtiments, leur facilité d'entretien aussi, hein, parce qu'il ne faut pas non plus acheter un appartement et ne pas pouvoir l'entretenir.
Donc,
faut pouvoir se chauffer. On utilise souvent, quand c'est possible, le chauffage urbain, hein, ce qui est également le cas sur la ville de Besançon. Donc, on conçoit en fonction du site aussi où on va construire. Donc, c'est vraiment un réel enjeu pour nous aujourd'hui.
Alors, on a parlé des prix, parce que le vrai sujet, effectivement, si on pouvait avoir des structures... Alors d'ailleurs, ce n'est pas forcément toujours que des structures bois, c'est un mix matériaux entre du béton bas carbone, parce qu'il existe 250 formules de béton bas carbone avec une grosse évolution finalement de l'industrie cimentière dans l'évolution de l'empreinte carbone. C'est le problème du prix. Alors justement, question très prosaïque, très pratique, quel est le prix moyen du mètre carré neuf dans le territoire de Besançon?
Alors aujourd'hui, on est à peu près sur un prix de 3 700 € hors stationnement.
Ah, quand même.
Qui reste abordable.
Alors, c'est vrai que si on compare par rapport
au truc,
on est dans le neuf. Ça reste quand même.
Ce qui reste abordable. Gros avantage de la ville de Besançon, c'est qu'il y a des périmètres qu'on appelle en rue, sur lesquels on peut bénéficier d'une TVA 5,5. Donc, lorsqu'on va acheter sur ces périmètres-là, un accédant peut souvent s'acheter une pièce de plus. Avec cette différentielle de TVA
5,5, voilà. Exonération partielle ou totale des droits de mutation. Parce qu'on a des droits de mutation, je crois qu'ils sont à...
De 3% entre 7 et 8% dans l'ancien.
Plus une TVA réduite de 15% parce qu'on est en zone en rue.
Ce qui permet, voilà, de...
Ça resolvabilise.
Ça resolvabilise et en plus de ça, ça permet d'acheter un appartement plus grand que si vous aviez été sur un périmètre, on va dire, normal.
Est-ce qu'il y a toujours autant d'appétence des clients en primo-accession, en investissement sur le neuf, ici à Besançon?
Oui, il y a une demande. Après, aujourd'hui, il faut répondre à un prix. Pour ça... Il faut... Allez.
Oui, vous voulez intervenir? Oui, mais... Non, mais terminez votre...
Voilà, il faut être au bon prix. En fait, aujourd'hui, les clients viennent, si vous êtes au bon prix, au bon emplacement.
Conscient. Voilà, le bon prix, le prix. Anne Vignon.
Juste, il faut savoir aussi que Besançon est dans une sphère qui est particulière et qui est en train de s'étendre. C'est celle du franco-suisse. C'est-à-dire que nous avons un phénomène qui est celui du frontalier.
Eh oui.
Et comme la Suisse aujourd'hui est en augmentation d'activité, et elle est aussi sur une phase de vieillissement de sa population, elle a besoin d'habitants, de travailleurs. Et donc on passe, il y a à peu près 10 ans, on était à 35 000 transfrontaliers franc-comtois. Aujourd'hui, on est à peu près 46 000. On projette à 70 000. Ça veut dire que tout le monde ne peut pas continuer à vivre comme ça l'a été pendant longtemps sur la frontière. Et on voit que les transfrontaliers, ils vont les chercher de plus en plus loin. Donc, ils viennent maintenant depuis Besançon, même jusqu'à Haute-Saône. Ça veut dire que nous avons une autre type de population aussi qui attend d'avoir des logements sur notre secteur, sur notre ville. Donc ça ouvre une autre dynamique, une autre perspective.
Donc des besoins en logement.
Bien sûr. Et les prix, alors les prix, on l'a vu à l'achat, 3 700 € du mètre maîtrisé en moyenne. Le prix à la location, est-ce qu'on loue dans le neuf? Et quel est le prix à la location?
Alors sur un habitat récent, on est entre 13 et 15 euros le mètre carré. Sachant que lorsqu'on va sur des surfaces plus compactes, telles que du logement étudiant, on monte un petit peu.
On monte un peu, voilà. D'accord. Ça reste que... Alors, c'est vrai que nous, on est un peu déformés avec Olivier. On pense que c'est des prix plutôt bas, hein, puisque pour l'équivalent, juste en région parisienne, on est pratiquement à 29 euros du mètre. Quand même pas évident. Ça reste quand même des prix acceptables, Madame la maire, en location, entre 13 et 15 euros sur du neuf?
Ça reste malgré tout...
Ça reste cher ou
ça
pas reste,
ça peut être considéré comme cher parce d'accord. qu'on a vraiment une grande diversité de population
bien
sur
sûr,
Besançon.
Bien sûr,
d'accord
bien
sûr. Avec un phénomène qui est dans toutes les villes, celui d'avoir ce qu'on appelle un desserrement, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus des personnes qui vivent seules. Et quand vous supportez seul l'ensemble des frais, c'est vrai que ça devient compliqué. C'est pour ça que nous explorons aussi d'autres dispositifs qui sont par exemple le bail réel social, c'est-à-dire
le fameux BRS qui permet de détacher le foncier du bâti.
Exactement.
Ouais. Ça marche bien ici
vous Alors, que... c'est quelque chose que nous lançons.
Vous,
d'accord.
Vous avez créé un OFS pour ça?
Oui.
Ah, c'est bien,
oui,
super.
Oui. Et donc, pour autant... ça veut dire qu'il faut malgré tout identifier que c'est une autre approche aussi de la propriété privée. En France, ici à Besançon, on côtoie nos amis allemands, suisses, etc., qui eux n'ont pas du tout le même sens de la propriété, ils n'ont même pas le même rapport à l'immobilier aussi.
C'est très clair.
En France, je pense qu'il serait intéressant quand même qu'on essaye de faire évoluer aussi cette culture de la propriété, parce que parfois, finalement, on s'interdit d'aller dans un habitat qui pourrait être d'un autre confort.
Oulala.
Tout ça pour être propriétaire.
Et faire évoluer notre propriété en France.
C'est très difficile.
Bon.
Donc aujourd'hui, aujourd'hui on essaye d'explorer des dispositifs intermédiaires et pour nous, l'OFS peut être cet intermédiaire.
En tout cas, le BRS, le principe du BRS, la création des offices fonciers solidaires, cartonne. Ça marche très bien. J'ai vu une chose aussi intéressante. Je voudrais qu'on. Rapidement, s'il vous plaît, Franck. Vous avez lancé une campagne extrêmement intéressante avec le Crédit Lyonnais.
Oui, tout à fait, l'offre Crescendo.
Ouais, l'offre Crescendo qui est hyper intéressante. En réalité, vous resolvabilisez une grande partie de la primo-accession et je crois que vous ciblez d'ailleurs essentiellement les primo-accédants avec le Crédit Lyonnais. C'est quoi exactement cette opération ?
En deux mots, c'est un complément du PTZ. Prêt à taux zéro. Hein. Aujourd'hui, la ville de Besançon, qui est située en zone B1, est éligible à ce prêt à taux zéro. Juste un petit exemple qui va être très factuel. Aujourd'hui, un couple sans enfant qui gagne 3300 euros net par mois.
À deux.
Qui a un apport de 15 000 euros.
Ce n'est pas évident.
Avec un apport de 15 000 euros, peut emprunter sur 25 ans à peu près 220 000 euros sans le prêt à taux zéro. Avec le prêt à taux zéro, le capital peut être augmenté de 60 000 euros. Donc, c'est vraiment un atout. Et nous, avec l'offre Crescendo, avec le crédit. Le crédit lyonnais, excusez-moi. On vient upper ce montant de prêt à taux zéro de 40 000 euros.
Augmenter, voilà. Vous l'augmentez.
Tout à fait.
J'adore les anglicismes. J'ai du mal avec les anglicismes. Donc vous augmentez en fait. Donc c'est génial finalement.
Donc en fait, à la finale, ça
mais
fait.
Je suis obligé de passer par le Crédit Lyonnais.
Oui.
Et je suis obligé d'acheter un produit Nexity.
Nexity, tout à fait.
C'est logique en même temps, je veux comprendre. Donc vous, en fait, vous dopez, si on peut dire les choses comme ça, vous doublez la capacité du PTZ.
On augmente.
En fait, vous faites votre propre PTZ augmenter.
Voilà, on augmente la capacité d'emprunt. Et en plus de ça, on vient baisser donc, le taux d'emprunt, hein, puisqu'au lieu d'avoir à peu près une mensualité à 1150 euros, elle baisse à 1100 euros. 50 euros par mois, ça permet de payer les charges de l'appartement.
Je vais vous dire, quand on gagne 3000 euros par mois et qu'on a des enfants, je peux vous dire que même 10 euros, ça compte. Hein.
Tout à fait.
Je peux vous dire, parce que les phénomènes de gentrification, qui sont des phénomènes sociologiques, qui sont pour moi extrêmement délétères, creusent les inégalités. Et une des inégalités marquantes, c'est l'accès au logement. C'est le logement. Parce que plus vous vous éloignez, plus vous vous éloignez de l'emploi. Quand vous prenez une heure ou deux heures pour aller bosser le matin et le soir, je peux vous dire que ce n'est pas simple du tout. Ça serait bien qu'on s'en rappelle. Un commentaire, justement, c'est vachement bien comme offre, ça. C'est original.
Ah bah, toutes les offres sont, sont intéressantes quand elles peuvent
ça
permettre, bien sûr.
La primo, pour des ménages modestes et pour la classe moyenne, c'est rassurant de voir cela. Merci beaucoup, Franck Attali.
Merci.
Je rappelle que vous êtes directeur général pour Nexity. Merci à vous. On va enchaîner, restez avec nous, on va enchaîner avec notre prochaine séquence. On va parler de rénovation énergétique, Madame Lemaire, justement d'énergie, de mobilité également, avec Helio Solutions. En l'occurrence, c'est Pauline Corbier-Dubos qui va nous rejoindre dans quelques instants, tout de suite après ça.
Les clés de la ville, bien mieux avec Helio.
Et bien voilà, de retour sur le plateau des clés de la ville, ici à Besançon, au Cursal. On ne peut pas rêver mieux. C'est un écrin architectural. Un immense merci aux équipes de la municipalité et en particulier de Madame la maire de Besançon, Anne Vigneault, toujours avec nous sur le plateau. Comment ça va, Anne Vigneault ?
Très bien.
On est très heureux de partager ce moment avec vous ici, dans votre ville, avec Olivier Marin. Et nous accueillons sur le plateau, justement, pour cette séquence bien mieux. On parlait de rénovation énergétique. Je sais que c'est un sujet qui vous touche beaucoup, avec nos amis d'Helio, Pauline Courbet-Dubost. Bonjour.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va, Pauline ?
Ça va et vous ?
On est très heureux de vous voir, comme d'habitude. On fait le tour de France ensemble.
Absolument.
Et comme c'est l'usage, la première question vous est posée par notre ami Olivier Marin.
Oui, alors Pauline, bonjour. Très heureuse de vous retrouver. Alors on va commencer par le national et puis on va aller sur les logements à Besançon. Donc ça, ce sera la deuxième partie. Alors tout d'abord, au niveau national, bon, on dit qu'on enregistre. Nous sommes quand même le 18 décembre. C'est important puisque l'émission, au moment où vous la découvrez, nous sommes début janvier, le 9 janvier très précisément, mais tout de même, on a besoin vraiment d'y voir clair sur notamment tout ce qui concerne la rénovation énergétique. Et puis, on parle d'interdiction de logements pour ceux qui sont classés G, les logements les plus énergivores, interdiction de pouvoir y accéder. Et tout ce qui concerne, en fait, cette accession, est-ce que vous pouvez nous faire un point précis et puis rappeler ce qu'est Helio ?
Bien sûr. Bon, alors Helio, très rapidement, c'est un groupe qui est expert des solutions de maîtrise de l'énergie et qui déploie auprès de tous les consommateurs d'énergie une expertise à la fois technique et financière et des solutions de suivi des consommations énergétiques. Donc on est très attentif évidemment à l'actualité politique, législative, réglementaire autour du logement et de la consommation d'énergie. Et je rappelle quand même qu'en 2024, on a eu 4 gouvernements et une dissolution. Donc là, aujourd'hui, on est en effet le 18 décembre, on a un Premier ministre nommé.
Plus une motion de censure.
Ouais. Plus une motion de censure, mais c'est d'où le 4e gouvernement.
Notre méridien de la République aura battu tous les records.
Voilà. Alors pour une filière qui a vraiment besoin de stabilité, de cadre et de budget, c'est vrai que c'est compliqué et on a toujours des délais un peu incompressibles à la formation de chaque gouvernement qui retardent un certain nombre de choses. Et vous le disiez, Olivier, la loi Climat et Résilience de 2021 a instauré un calendrier d'interdiction à location pour les logements qui ne respecteraient pas un certain nombre de critères de décence énergétique. Et la deuxième échéance, c'est celle des logements classés G au DPE, et c'est 1er janvier 2025.
Et oui, c'est déjà effectif, quasiment. Et après, on a une autre date, qui est celle de 2028.
Tout à fait, mais déjà pour 2025,
c'est un premier sujet. Déjà pour 2025, alors, qui est concerné et est-ce que ça peut s'appliquer?
Alors, a priori, en l'état du droit au 18 décembre et probablement au 1er janvier,
oui,
c'est sûr, les propriétaires de logements classés G n'auront, pour les baux renouvelés ou les nouveaux baux, n'auront plus le droit de les louer. Mais c'est quand même un petit peu compliqué, notamment en pleine crise du logement, d'aller confisquer toute une part du parc
locatif.
Aujourd'hui, on considère qu'il y a à peu près 250 000 logements classés G en copropriété. Donc, il y avait une proposition de loi transpartisane qui avait été déposée par les députés Marchive et Échanise, donc à la fois La République En Marche, Ensemble pour la République et le Parti Socialiste, justement, qui vient notamment pondérer ces interdictions à location en créant un certain nombre d'exceptions. Donc si jamais, par exemple, le propriétaire a lancé des travaux, ou s'il y a un blocage de l'assemblée des copropriétaires, ou peut-être même du locataire. Donc ça, ce sont des logements qui auraient le droit de continuer à être loués. Sauf que censure oblige, tous les textes...
Le projet n'a pas été adopté.
Le projet n'est pas adopté, mais il va... Enfin, en tout cas, la conférence des présidents d'hier a décidé qu'il serait examiné en séance publique à l'Assemblée nationale à la fin du mois de janvier. Donc ça veut dire que, en principe, l'interdiction à location va rentrer en vigueur. Mais qu'après, on aurait un texte qui viendrait la pondérer.
Qui modifierait éventuellement les conditions, les conditions
d'exercice.
Qu'en est-il des baux en cours ? Je suis locataire, l'étiquette énergétique est G.
Oui.
Bon, je doute fort que moi, en tant que locataire, je fasse du chantage auprès de mon propriétaire, parce que je suis tellement content d'être logé. Parce que,
mais ça peut arriver.
Ça peut arriver. Sûr, qu'en est-il des baux en cours ? Est-ce qu'ils sont touchés ? Est-ce que je peux demander à mon propriétaire, je suis en étiquette G, je vous demande de faire les travaux ?
Alors non, les baux en cours ne sont pas concernés.
D'accord.
En effet,
c'est
vrai,
toujours important de le préciser.
Parce que les auditeurs, les téléspectateurs nous ont posé souvent la question. Ouais. On est d'accord, il n'y a pas de souci. One Vignon, vous voulez répondre.
Il n'y a pas d'obligation légale. Par contre, nous, ce qui nous arrive, c'est qu'on accompagne aussi les foyers qui sont en plus grande précarité, qui sont d'ailleurs souvent ceux qui sont dans des logements de type G ou plus. Et donc, ce qui se passe, c'est que nous avons un dispositif pour les accompagner, pour essayer de voir dans quelle mesure on peut trouver des dispositifs qui peuvent les accompagner, mais surtout les locataires. Mais surtout aussi de renvoyer des courriers aux propriétaires pour les inciter justement et leur faire connaître qu'ils peuvent aussi aller vers des dispositifs qui amélioreraient et anticiperaient de toute façon les obligations dans lesquelles ils pourraient être. Donc voilà, ça c'est aussi notre rôle à bien informer, à accompagner et à soutenir.
Bien sûr, c'est un vrai sujet.
Ouais. Alors, on va continuer justement là, toujours au niveau national, avant de parler plus particulièrement de Besançon, mais sur MaPrimeRénov', qui commence à parler un peu à tout le monde. Où en est-on ?
Alors, les décrets arrêtés ont été publiés par le gouvernement Barnier. Donc,
il paraît que ça a été fait, ça y est, c'est fait. C'est pas in extremis.
In extremis, tout début décembre, ouais. En effet. Alors, pour le coup, pas de surprise. Le régime en vigueur depuis le 15 mai 2024 est prolongé pour toute l'année 2025. D'accord. Notamment sur le sujet du maintien des monogestes, de l'accession en fait au parcours par geste MaPrimeRénov pour les maisons individuelles étiquetées F ou G. Et il y a aussi un certain nombre de.
Quand on dit monogeste, c'est.
Changer son système de chauffage.
La pompe à chaleur, les fenêtres.
Exactement, d'accord, c'est faire voilà. Un geste d'isolation.
C'est ça, un geste, de, d'accord.
Okay. Voilà, ou peut-être un parcours de gestes, mais en tout cas.
Mais
pas
on peut aussi faire des rénaux d'ampleur, ce qu'on appelle d'ampleur globale.
Tout à fait. Mais là, en l'occurrence, c'était sur le. En fait, le régime en vigueur au 1er janvier 2024 excluait. Justement la rénovation par geste.
Oui, c'est ça. Et là, du coup, on est plutôt...
Là, on maintient le parcours par geste tel qu'il est en vigueur.
Bonne nouvelle ?
C'est plutôt une...
Ah, Madame la maire, je sais que...
Oui, mais on va vous demander de réagir, mais on va quand même laisser Pauline réagir.
On se rend compte quand même qu'il y avait une grosse marche à franchir pour rentrer dans le parcours accompagné de l'ANA et justement engager des rénovations d'ampleur. Il y a aussi la présence obligatoire du monde accompagnateur Rénov, qui du coup a créé un vrai goulet d'étranglement pour le premier même semestre en fait 2024, d'où le rétropédalage du 15 mai 2024. Il faut pas le prendre comme un rétropédalage d'ailleurs, il faut le prendre comme un aménagement. L'objectif reste le même, mais c'est quand même important. En fait, la contractualisation d'un parcours de rénovation par geste peut permettre d'atteindre une rénovation d'ampleur, ambitieuse en tout cas.
Un Nino.
Alors ça, c'est un débat qu'on a depuis longtemps. C'est à quel niveau on investit et qui peut le faire.
Ben oui.
Donc, c'est la question qui est posée. Une chose est certaine, c'est que un monogeste, finalement, monogeste par monogeste, ça coûte beaucoup plus cher. Donc c'est vrai que l'idée, c'est d'essayer d'accompagner plutôt quelque chose de beaucoup plus massif. Ça, c'est important. Mais on va se dire les choses, aujourd'hui, on ne voit pas très clair dans l'accompagnement. Moi, ce que je trouvais intéressant, c'est dans l'évolution de ce dispositif qui allait beaucoup plus aussi sur les copropriétés. Parce que pour parler de la ville de Besançon, nous avons effectivement un ensemble de copropriétés qui sont dans une situation extrêmement difficile en matière d'énergie. Pas que d'ailleurs, il y a aussi au niveau phonique, mais... Et là, très honnêtement, il fallait que ce dispositif se transforme et c'est ce qu'il était en train d'opérer. J'espère bien qu'on va reprendre ce dossier très, très vite.
Très bien.
Il est en plus d'une grande nécessité, Olivier.
Pauline, alors justement, maintenant, on va s'arrêter sur la ville de Besançon, l'état des lieux, tout d'abord, du parc de logements.
Ok. Bon élève.
Très bon élève, Besançon.
Ah,
bravo. Ouais.
C'est une ville. Alors, je parle de la ville de Besançon, pas de Besançon.
Oui, intramuros.
Exactement. C'est une ville qui a à peu près 7% de passoires thermiques, donc de logements classés.
Wow. Ouais,
c'est vraiment génial. Très en dessous de la moyenne nationale qui est plutôt à 17,5.
C'est très très en dessous. C'est plus de 3 fois moins quasiment.
Voilà, donc F et G hein, pour le coup. Mais, mais pour autant,
oui.
Il reste plein de choses à faire évidemment.
Oui.
Et nous, on avait accompagné une copropriété donc à Besançon qui est rue Paul Milleret. Qui compte 3 bâtiments, 140 logements, système de chauffage donc, au gaz et qui avait subi une importante rénovation avec plusieurs gestes d'isolation, remplacement de portes et de châssis et une installation de VMC, donc qui a fait un bond d'une étiquette E à D avec 38% de gains énergétiques. Donc c'est des travaux qui ont coûté 3 817 000 euros à la copropriété, mais pour lesquels il y a eu un petit peu moins d'un tiers d'aide fléchée, donc à la fois MaPrimeRénov copro et les certificats d'économie d'énergie dont Elio est le délégataire. On avait à peu près un montant de 1 300 000 euros d'aide.
Mmh.
Donc voilà.
Ça c'est pour l'un des deux exemples.
C'est top. Ça.
On rappelle que le parc de logements de Besançon compte 72 468 logements, dont 86% d'appartements. 62% des occupants sont locataires.
C'est donc une ville de locataires.
C'est une ville de locataires parce que nous avons beaucoup de logements sociaux. Nous avons sur le territoire du Grand Besançon à peu près 90% des logements sociaux qui sont sur Besançon.
D'accord.
Nous avons eu effectivement un développement de quartiers de logements sociaux. Et quand je dis logement social, on est bien d'accord. Ce ne sont pas que des personnes précaires.
Mais c'est important ce que vous dites. Le logement social, encore une fois, on est obligé de dire logement social parce que c'est du logement. Et il est parfois, croyez-moi, de bien meilleure qualité que parfois le logement privé.
On est bien d'accord. Ouais. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a effectivement eu plusieurs vagues de rénovation urbaine. Donc, c'est ce que nous sommes en train de continuer. Il y a aussi quelque chose qui pèse dans l'évaluation, dans le diagnostic énergétique, c'est que nous avons aussi énormément de logements sociaux qui sont sur le réseau de chaleur, ça c'est important, qui nous a fait traverser la crise énergétique de façon extrêmement efficace parce qu'il a l'avantage de stabiliser le prix. Donc ça, il faut le rappeler aussi. Et quelque chose qui est important, c'est qu'on va passer justement de 24 km de réseau de chaleur à plus de 124 km de réseau de chaleur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de travaux dans la ville de Besançon. Mais c'est au bénéfice justement de l'ensemble de ces logements et aussi des entreprises, il faut en parler, et aussi, bien sûr, d'autres établissements.
On avance.
Alors, justement, Pauline, vous avez évoqué tout à l'heure la rénovation d'une copropriété à Besançon. Il y a un deuxième exemple, un cas concret. C'est une maison individuelle à Besançon, et là, vous avez accompagné un ménage modeste, donc qui est classé jaune, on va dire, avec un enfant dont la rénovation...
Il faut rappeler que les conditions de ressources, il y a des codes couleurs en fonction des revenus. Hein.
Donc là, c'est jaune,
c'est modeste, voire très modeste.
Oui.
Maison d'une surface de 100 mètres carrés. Alors, qu'est-ce que vous avez fait concrètement chez Elio?
Tout à fait. Donc, le DPE classait le logement en G, donc une passoire thermique. Donc, il y a eu plusieurs gestes d'isolation effectués, à savoir les combles et les planchers bas et l'installation d'une pompe à chaleur RO et d'une VMC hygro-réglable de type B pour atteindre donc l'étiquette de C avec un gain énergétique de 80%. Le montant des travaux s'élevait à pratiquement 34 000 euros et il y a eu un montant d'aide, donc pareil, MaPrimeRénov et C2E, de 13 540 euros, donc un petit peu plus du tiers. Donc ça fait quand même significativement baisser le reste à charge.
Avec un reste à charge qui
reste conséquent, c'est une certitude.
Comment ils ont été financés pour le reste à charge alors?
Alors, sincèrement, je ne le sais pas, mais c'est dans la droite ligne de nos amis de Nexity, ce serait plutôt un prêt à taux zéro.
Mais c'est ça.
Bien sûr.
On recommande, évidemment.
Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, il y a beaucoup aujourd'hui de délégataires comme de mandataires ou d'organismes qui font la gestion des travaux, qui proposent, parce que le nerf de la guerre, c'est les moyens. Parce que les Français veulent faire des travaux, il faut arrêter de dire qu'ils ne veulent pas faire des travaux. Mais ils n'ont pas de moyens, il faut les comprendre. Il y en a même qui n'ont pas les moyens de faire le reste à charge, il faut être honnête aussi là-dessus. Et c'est comment ajuster finalement l'économie d'énergie et le panier, le pouvoir d'achat des ménages. Et je pense qu'il y a de bonnes solutions qui se présentent. Hein, le mouvement est plutôt bon, surtout pour les plus précaires, les plus modestes, parce que ceux qui ont les moyens, bien évidemment, ils ont les moyens de faire les travaux, il faut être très clair là-dessus. C'est pour ça que le code couleur est important. Juste rappeler, donc jaune.
Alors bleu.
Oui,
bleu. Modeste.
Bleu modeste.
Jaune. Violet et rose.
Voilà. Rose, c'est le top.
C'est 10 revenus supérieurs.
Ah oui, d'accord.
Okay. Voilà. Après.
Oui, non, mais tout le monde fait des travaux. Hein. Il n'y a pas de souci. Voilà, merci beaucoup.
Merci
Pauline.
Beaucoup.
Applaudissements pour Pauline Courbet-Dubost, responsable des affaires publiques chez Elio. Et. Nous allons conclure avec notre dernière séquence très importante. On va parler du logement ancien avec une notaire qui sera sur le plateau. C'est Maître Aude Duval de Fraville qu'on va retrouver dans quelques instants.
Les clés de la ville, parlons bien avec le Conseil supérieur du notariat.
Eh bien voilà, de retour dans notre bonne vieille ville de Besançon. On est très heureux d'être ici au Cursal, en présence de Madame le maire Anne Vigneault. Merci, vraiment, avec beaucoup de plaisir. Vos équipes ont été remarquables. On est très heureux d'être ici avec Olivier Marin. Hein. On va parler avec notre dernière séquence de cette émission. Venez à Besançon, venez visiter Besançon. En tout cas, c'était la première fois que je venais. Et je peux vous dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à visiter cette ville. On va parler des biens immobiliers de l'ancien. On ne pouvait pas rêver mieux. Nous avons Maître Aude Duval de... Alors, je vais y arriver. Maître Duval Maître Duval.
De Fraville.
Qui est sur le plateau. Voilà,
Bonjour.
Merci d'être avec nous, mon cher maître. Justement, on va vous poser les questions. On a le Conseil supérieur du notariat qui nous donne d'ailleurs les indicateurs pour chaque ville.
Oui, absolument. Chaque mois, donc, on a le plaisir de recevoir un notaire du Conseil supérieur du notariat. Donc, aujourd'hui, maître Aude Duval de Fraville, notaire à Besançon. On va faire avec vous, maître, un tour d'horizon de l'immobilier ancien, l'évolution des prix et des ventes, mais également délivrer des conseils pratiques. Quelques chiffres clés pour démarrer. 2000 comme 2000 euros, ça c'est le prix médian au mètre carré d'un appartement ancien à Besançon, ce qui correspond à une baisse de près de 4% sur un an. Mais quand on regarde en arrière, c'est 24% de hausse sur 5 ans. Donc il faut vraiment aussi avoir ça en tête. Et puis un autre chiffre clé, c'est 262 comme 262 000 euros. C'est le prix médian d'une maison ancienne à Besançon, moins 7% sur un an, mais sur les 5 dernières années, la hausse a été de 10%. Volume de vente, moins 10% à Besançon sur un an. Est-ce qu'il y a, depuis la rentrée, on va dire, un regain, un retour des projets immobiliers ici à Besançon, maître ?
Alors oui, tout à fait. Effectivement, on constate depuis le retour des congés de cet été, effectivement, que les dossiers rentrent à nouveau dans nos études. On remarque un regain sur l'investissement. Nous rencontrons de nouveau des profils d'investisseurs ou d'acquéreurs qui avaient déserté nos études ces deux dernières années, effectivement, tels que les primo-accédants notamment. On retrouve de nouveau donc des dossiers avec des primo-accédants.
C'est lié, selon vous, à la combinaison à la fois de la baisse des prix et de la baisse des taux d'intérêt.
Dès que les taux ont baissé, vous les avez vus revenir.
Alors, les prix ont un petit peu baissé, effectivement, comme vous l'avez évoqué. Alors après, cette baisse est à relativiser par rapport à ce que nous avons vécu depuis les années post-Covid. Effectivement, on avait rencontré des hausses exceptionnelles et Besançon... également. Donc on a constaté au début de l'année 2024, malgré tout, une baisse encore du volume des transactions, comme nous enregistrons depuis les deux années précédentes. Sur le territoire national également. Donc cette baisse du volume est constatée, effectivement. Mais on ressent ce frémissement, quelque chose depuis la rentrée de septembre, effectivement, avec un nombre de dossiers plus important. Donc un volume qui, je pense, a tendance à réaugmenter un petit peu par rapport à ce que nous avions connu au début de l'année. Donc on est sur une tendance que je dirais plutôt positive pour la fin d'année 2024, par rapport à ce qu'on escomptait en tout cas au début de l'année.
Alors ça c'est très bien, c'est encourageant en tout cas, cette dynamique. Pour ceux qui ne connaissent pas, quelles sont les spécificités du marché immobilier à Besançon, si l'on devait prendre une photo avec justement votre éclairage, maître ?
Alors, Besançon est une ville, on l'a vu au cours du reportage, très dynamique, avec une typologie des biens immobiliers très variée, ce qui fait qu'elle permet à toutes sortes d'investisseurs de trouver son compte à Besançon, que ce soit des familles, des investisseurs qui recherchent purement un investissement, que ce soit même pour de la location. Alors, au niveau de, si je peux vous décrire un petit peu la ville, Besançon comporte un centre-ville qu'on appelle, nous, Byzantins, le centre, enfin la boucle. Pourquoi ? Parce que donc, c'est le centre historique qui est entouré par le Doubs. On est sur une offre, une typologie de biens immobiliers relativement donc anciens, avec un patrimoine historique très chargé, très important, avec des monuments historiques présents vraiment tout autour du centre-ville en tout cas, avec donc des biens qui sont vraiment très attractifs à la fois pour des familles, parce qu'on a beaucoup d'appartements de T4, T5, avec des grandes surfaces, donc qui peuvent attirer des familles, mais également des studios, des plus petites surfaces également, qui peuvent intéresser les étudiants. Comme on l'a vu tout à l'heure, la ville de Besançon attire énormément les étudiants, et ils aiment tout particulièrement résider au centre-ville, puisque il y a une offre, que ce soit nocturne ou culturelle, autre, qui est très intéressante au centre-ville.
Et là, dans le centre-ville, en fait, est-ce qu'on est au-delà, j'imagine, des prix médians qu'on évoquait tout à l'heure, des 2000 euros par mètre carré? C'est plus, beaucoup plus ou que...
Oui, alors en fonction du type de bien, ça peut varier. On se situe aux alentours de 2100 euros du mètre carré, à peu près. Oui. On peut monter un petit peu plus pour des studios qui peuvent monter un petit peu plus sur les 2200 euros du mètre carré.
D'accord. Voilà. En dehors du centre, quels sont les quartiers porteurs ou ceux sur lesquels vous vouliez particulièrement insister alors?
Tous les quartiers sont porteurs à Besançon.
C'est une sélection. Alors, on va faire une sélection.
Bien entendu, tout dépend de ce que vous recherchez, hein, en tout cas. Je dirais que si le quartier Chaperet, par exemple, pour en citer un, est très attractif.
Qui est où, au nord, au sud
de... alors, il se situe plutôt au nord-est, de Besançon. Oui. Voilà. Il est très proche du centre-ville, donc on peut y accéder facilement à pied, très bien desservi par les transports en commun, le tram notamment, son réseau de bus également, qui est très actif. On peut tout à fait rejoindre le centre-ville à pied si besoin. Il est très diversifié en matière de commerce, donc ça c'est important pour la vie locale. Et il présente une typologie de biens immobiliers assez variée, que ce soit des appartements neufs, anciens, ainsi que des pavillons.
Oui.
Donc ça peut répondre à toute une sorte de catégorie d'investisseurs, en tout cas variés.
Quartier Vette aussi, où je crois que vous avez eu une réunion il y a peu de temps, justement, avec à la fois les habitants, pour là aussi, vous pouvez nous expliquer peut-être ce qui se passe là-bas.
Oui, c'est un quartier qui a une longue histoire et qui pose la question aujourd'hui de quel quartier nous souhaitons voir un devenir, un quartier qui était plutôt destiné à l'horticulture, au maraîchage, et qui, il y a une quinzaine d'années, il a été décidé qu'il serait traversé par un tram et qu'il deviendrait un quartier et qui offrirait une nouvelle forme urbaine. Il a été très fortement contesté. Il a été complètement révisé. La proposition qui est faite aujourd'hui, évidemment, c'est celle de faire en sorte que nous puissions offrir des nouveaux quartiers qui reçoivent des familles, celles qui d'habitude partent dans la périphérie. C'est un quartier qui est en frondaison, en fait, entre de l'urbain des années 60 et la colline. Donc, c'est l'occasion de se réinventer. Comment aujourd'hui on envisage de construire, de bâtir, de densifier et en même temps d'offrir des espaces ouverts, des parcs, parce que par exemple le quartier des Chaperets est très dense, très peu d'espaces, très peu de parcs. Donc on a besoin, pour que les gens des familles s'installent à Besançon, on a besoin de ces espaces-là. Et donc le débat a eu lieu, évidemment. C'est un débat, moi je regarde les choses très, très, très sereinement, les choses en face, et j'explique quand, par exemple, souvent on m'a dit, vous prenez de la terre dans la main, cette terre-là, il faut la sauver, et je dis oui, moi je veux la sauver, cette terre-là, d'autant plus quand je sais que si je construis comme je propose de construire, j'en sauverai entre 4 et 10 fois plus en construisant là plutôt que construire à l'extérieur. Donc c'est mon combat, c'est notre combat, c'est comment aujourd'hui on envisage l'évolution, parce qu'on est dans un paradoxe dans les villes. On a un phénomène de, entre guillemets, de métropolisation, c'est-à-dire que les gens ont envie d'avoir plein de services et en même temps de ne pas avoir à subir une trop grosse densification. Les gens ont envie d'être calmes, aller dans la campagne, et en même temps, la question de la mobilité, on est vraiment dans quelque chose d'ultra paradoxal. Donc, comment essayer de concilier tout ça et d'offrir les Vettes comme étant le quartier du futur, celui qui pose bien toutes les questions, le vivant, l'humain et bien sûr le carbone.
Avec des enjeux en termes d'habitat, je crois qu'il est prévu 600 logements, c'est ça ou...
Il est prévu, ouais. Voilà, il y avait une prévision à 1200, nous sommes passés à 600, il était prévu de plus de 11 hectares, on en est à peu près à 500 hectares. Donc aujourd'hui, l'ensemble des jardins qui étaient utilisés sont des jardins qui vont se reconvertir, mais qui vont s'ouvrir et à des personnes qui étaient présentes si elles souhaitent continuer ou aux nouveaux habitants. Parce qu'on rappelle aussi que la terre, cette terre qu'on défend, Cette terre, c'est un bien commun et elle est accessible à tous. Oui. Donc comment faire pour que ce bien commun reste universel?
Merci, Madame la Maire. Maître, pour terminer, peut-être alors, juste avant de passer au conseil pratique, un ou deux quartiers, autre sélection, peut-être pour là, pour un investissement locatif?
Alors, je pourrais conseiller également le quartier de la Gare,
oui.
Qui est un quartier en plein essor, qui va être le théâtre prochainement de grandes rénovations également, de grands projets urbains, puisqu'il est prévu dans les 10 années, vous m'arrêterez Madame la Maire si je me trompe, mais la construction voilà, d'un nouveau quartier qui se situerait, donc qui consiste en fait en la réhabilitation de l'ancienne gare ferroviaire, friche ferroviaire en tout cas, avec la création donc de logements également, une offre diversifiée, puisqu'il y aura à la fois du tertiaire, si je ne me trompe pas, des bureaux, une crèche. Oui, des logements. Et hormis ça, donc c'est un secteur qui est pour moi très attractif, de par son emplacement avec la gare, qui est une gare avec un pôle multimodal, voilà, donc qui permet un rapprochement du centre-ville. On peut aller travailler par exemple également à Paris, parce qu'on a... Enfin, je ne vais pas parler ici de la proximité et de l'emplacement géographique de Besançon, qui est très attractif et très intéressant.
Très important.
Donc,
quand on a un direct, c'est hyper pratique. Ouais.
Voilà, vous l'avez effectivement
quand on doit
expérimenté.
Faire une halte à,
tout à fait,
de 40 minutes heures, ou de trucs, c'est compliqué, mais effectivement, quand c'est direct,
c'est
top.
Très pratique.
Et le deuxième exemple. Alors, donc, il y a le quartier de la Gare, un autre exemple
voilà,
aussi.
Je situerai le quartier de la Gare. Oui. Ensuite, on pourrait parler du quartier de Montrapon, par exemple, également.
Alors, où ça, nord, sud?
Alors, on est plutôt côté nord-ouest de Besançon, qui est très attractif, qui permet donc une vie assez calme également. Avec toujours autant de commerces, très bien desservi également par les transports en commun, avec un parc, on va dire, immobilier également varié, puisque vous retrouverez aussi du logement neuf, du logement ancien également, des pavillons encore également. Enfin, c'est vraiment très intéressant à ce niveau-là, au niveau, en tout cas pour Besançon, de pouvoir offrir à ses habitants toutes sortes de propriétés. Donc je citerai effectivement, mais bon, tous les quartiers sont bien évidemment attractifs.
On va conclure.
La conclusion, merci en tout cas
pour
vos éclairages. La dernière question de tradition, quels sont vos conseils pratiques, vos règles d'or pour ceux qui souhaitent vendre ou acheter un bien immobilier? Maître.
Rapidement.
Alors, quand on est côté vendeur, on va dire, effectivement, je porterai une attention particulière, bien entendu, surtout dans le contexte actuel, au profil de l'acquéreur. Et je veillerai particulièrement, et ça c'est mon conseil en tant que notaire, à lui délivrer le maximum d'informations dès
bien
le départ.
Sûr,
donc avec l'ensemble de la liasse des diagnostics notamment, DPE y compris, bien évidemment, on a bien compris que c'était une question centrale à l'heure actuelle. Également la question le diagnostic assainissement que je recommande de mettre en place assez tôt, puisqu'on se rend compte, nous, dans nos études et dans l'étude des dossiers, que ça peut être des points particulièrement parfois bloquants, puisque ça engendre également des coûts pour l'acquéreur si ce n'a pas été anticipé. Donc voilà, côté vendeur et côté acheteur. Alors là, ça dépend du profil de l'acquéreur, bien entendu. Si on recherche sa résidence principale, je ne délivrerai pas les mêmes conseils que si c'est pour un investissement. Après, je pense que si c'est pour une résidence principale, bien entendu, le cadre de vie sera très important et c'est ce qui sera regardé. Et principalement aussi, je citerai encore une fois l'étude du DPE et des éventuels coûts énergétiques qu'il va falloir réinjecter dans son logement dans les années qui viennent, parce que on a bien compris aujourd'hui que c'est une question centrale.
C'est devenu la shortlist.
Voilà, exactement.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Maître Aude Duval de Fraville. Je sais qu'on peut aussi vous consulter, puisque votre étude est dans Besançon. Merci d'être avec nous. Vous allez rester avec nous pour cette conclusion. Justement, il est temps de nous quitter. Et pour nous quitter, on a quelques habitudes. Alors, moi, j'ai l'habitude de faire quelques citations. Effectivement, vous savez qu'il y a un des plus grands hommes de la littérature française qui est né à Besançon, qui s'appelle Victor Hugo et qui parlait de la Besançon dans les feuilles d'automne, d'un très joli poème, je ne vais pas le réciter en entier, mais il dit « Alors dans Besançon, vieille ville espagnole, jetée comme une graine au gré de l'air qui vole, naquit d'un sang breton et lorrain à la fois, un enfant sans couleur, sans regard et sans voix, si débile qu'il fût, ainsi qu'une chimère, abandonné de tout, sauf de sa mère, et de son cou ployé comme un frêle roseau, fit en même temps sa bière et son berceau, cet enfant que la vie effaçait de son livre et qui n'avait même pas un lendemain à vivre, c'est moi, il parle de lui. Il est né le 26 février 1802, il est mort à 83 ans, en 85 à Paris. On parle de Victor Hugo et je trouve ça remarquable.
Magnifique, et il nous sert de cap parce que c'est un homme qui n'oublie jamais que, quelles que soient les formes de société que l'on voit évoluer, il ne faut jamais oublier qu'avant tout c'est l'humain et c'est l'ouverture, quelle que soit la couleur de l'enfant.
Absolument, et il disait une chose très juste, et c'est très important dans le préambule des Misérables, lorsqu'il écrit les Misérables, il parle de la damnation sociale, ceux qui sont voués à la damnation sociale, c'est-à-dire du lieu où ils vivent et d'où qu'ils sortent, ils sont déjà condamnés par le système avant même d'avoir produit du mérite. Et ça, il faut le rappeler, c'est d'une formidable modernité. Il y a aussi un autre auteur qui a cité Besançon, mm-hmm. dans Le Rouge et le Noir.
Oui, bien sûr, Stendhal. Hein.
C'est Stendhal. Mmh. Quand mmh. Julien Sorel se fait virer mmh. par Monsieur de Rênal, il arrive à Besançon, il est devant cette noble ville guerrière, car il y avait une espèce de la citadelle qui pour lui mmh. apparaissait comme noire. Il la cite dans un très joli passage. Ça nous permet, ma chère Anne Vigneault, de réinviter ceux qui nous écoutent à relire un peu notre littérature. Ça leur ferait du bien.
Ça fait du bien à tout le monde et puis ça implique donc que c'est la ville de la justice sociale ici à Besançon parce que nous avons d'autres auteurs aussi qui ont beaucoup de choses à nous apprendre dans le passé et pour oui. le futur.
Oui, ils iront à la grande bibliothèque.
D'ailleurs, plus récemment, je cite un livre qui s'appelle Le Château de la Juive de Guy Descart oui. qui parle aussi de la ville de Besançon. Voilà, on était très heureux de finir l'année avec vous, Anne Vigneault. Dans la ville de Besançon, encore une fois, on voudrait remercier l'ensemble de nos équipes et qui nous ont accueillis avec beaucoup de générosité, beaucoup de chaleur humaine. Et comme il est de tradition avec Olivier, on souhaiterait vous laisser le mot de la conclusion.
Mais écoutez, c'est un vrai plaisir d'avoir pu échanger sur notre ville. C'est une ville qui a cette caractéristique, encore une fois, c'est la justice sociale. C'est comment une traduction urbaine peut être particulièrement inclusive. C'est un appel à faire que nous puissions rendre cohérents nos ambitions de développement, d'émancipation et, encore une fois, de justice sociale.
Ce sera une très, très belle conclusion. Merci. On va se retrouver avec toi, Olivier, et on va vous souhaiter de très, très belles fêtes de Noël pendant cette trêve de confiseur. Restez en famille, redécouvrez aussi les vertus et l'éloge de la lenteur, d'être tranquille, sans stress. En tout cas, on partage également aussi à ceux qui n'ont pas la possibilité de fêter Noël en famille, notamment les troupes françaises qui sont situées aujourd'hui à l'étranger, notamment en Libye, par exemple. On a aussi un grand souci pour ceux et les enfants, et ils sont plusieurs milliers à ne pas avoir un Noël tout à fait traditionnel, et donc on souhaiterait également partager avec eux cette pensée, parce que effectivement, il faut intégrer tout le monde, comme vous le disiez d'ailleurs très justement, Anne Vigneault. On va se retrouver dès janvier à Vichy. On fera une très très jolie ville. On va pouvoir, avec mon cher Olivier Marin, après le passage de Noël, faire une cure à Vichy. Après un passage un peu arrosé. Voilà, à toutes et à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous faire vos remarques. C'est comme ça qu'au bout de la cinquième saison, nous sommes toujours là. Plus de 40 villes déjà visitées. On va vous faire découvrir notre beau pays à travers ceux qui sont aujourd'hui en front, on peut dire les choses comme ça. Et encore, je fais assez peu d'anglicisme. Ce sont les maires que nous aimons. Merci à toutes et à tous. D'ici là, prenez soin de vous.
Les clés de la ville. Une production Figaro Immobilier et Radio Immo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio et Nexity. Présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin.